Mon histoire des femmes, par Michel Perrault, 20e épisode.
Comédienne, est-ce un métier bien pour une femme? Oui, au premier abord. Les femmes savent exprimer des émotions, simuler, paraître, interpréter, prêter leur voix et leur corps à d'autres, se mettre dans la peau d'une autre, être une image et une voix. Mais non d'autre part, parce que, comme l'écrit Rousseau à D'Alembert, une femme qui se montre se déshonore, l'audace d'une femme est le signe assuré de sa honte. Être actrice, c'est manquer à la pudeur, entrer dans le cercle douteux de la galanterie, voire de la prostitution. Et la comtesse de Ségur met en garde les petites filles qui aiment tant jouer la comédie. Mademoiselle Yolande, mal élevée, sans esprit, sans cœur et sans religion, se fit actrice quand elle fut grande et mourut à l'hôpital. Enfant, prenez garde. Il faut dire que le christianisme n'avait pas été tendre avec les comédiens, longtemps excommuniés. Il faut, en France, attendre le concile de Soissons en 1849 pour qu'il ne le soit plus. Je cite... Quant aux comédiens et aux acteurs, nous ne les mettons pas au nombre des infâmes et des excommuniés. Toutefois, s'ils jouent des pièces impies ou obscènes, on leur refusera les sacrements. Les comédiens sont en marge et sous contrôle. Les monarques les utilisent et s'en méfient, y compris Napoléon, qui appréciait le théâtre et renforça le rôle des conservatoires. Mais, tenez-vous bien, c'est seulement la Constitution de 1852 qui reconnaît les comédiens comme des citoyens ordinaires. C'est dire leur marginalité pendant très longtemps. Alors, combien plus pour des femmes? Le vocabulaire, comme toujours, est du reste significatif. Une comédienne, c'est une dissimulée. Et la danseuse, le superflu qu'un homme peut s'offrir, il a une danseuse, comme on dit. En Grande-Bretagne, notez-le, c'était différent. Les comédiens peuvent être anoblis et les actrices sont des ladies. Pour Zola, c'est pas comme ça. La blonde et pulpeuse Nana, actrice des variétés, courtisée et courtisane, est le symbole de la déchéance des femmes et de la décadence des mœurs, bien qu'elle soit une bonne mère pourtant. Elle finit aussi mal, Nana, que la Mademoiselle Yolande de la comtesse de Ségur. Pourtant, le XIXe siècle marque une intégration progressive des comédiennes, actrices, chanteuses et danseuses dans la société. C'est ce processus que décrit Anne-Martin Fugier dans son livre « Comédienne » de Mademoiselle Mars à Sarah Bernard, paru au Seuil en 2001, livre sur lequel je m'appuie pour cette émission. Dans ce livre, Anne-Martin Fugier décrit la condition des actrices et leur professionnalisation au cours du XIXe siècle. Les actrices venaient la plupart du temps du milieu populaire et pauvre. Beaucoup d'ailleurs étaient des enfants de la balle, comme on dit, comme Rachel. Rachel était la fille d'un colporteur juif allemand, épris de musique, qui la confia à un professeur du conservatoire. Elle était très douée, Rachel. Et les petits rats de l'opéra, c'est ainsi qu'on les appelait, les jeunes danseuses, étaient confiés par leur mère, qui étaient souvent des concierges, des gardiennes d'immeubles. Elles étaient confiées donc à des mères d'opéra qui leur trouvaient des protecteurs. Et on sait ce que cela veut dire. Sarah Bernard, qui savait cela, dans sa jeunesse, ne voulait pas devenir comédienne. Et c'est d'ailleurs sa mère qui l'a poussée au conservatoire. Mais il faut dire que le conservatoire était une garantie de qualification et de reconnaissance. Lorsque on sortait avec un prix du conservatoire, on pouvait espérer entrer à la Comédie-Française, qui était le sommet de la hiérarchie des théâtres. Les autres, celles qui sortaient sans mention, c'était, comme le disait cyniquement un membre du jury, du déchet pour la province. Tout le monde n'avait pas même cette chance, c'est-à-dire d'être déchet pour la province. La plupart des comédiennes faisaient leur apprentissage sur le tas et tentaient d'améliorer leur position en tournant de scène en scène, en allant d'une moins bonne à une meilleure scène. Eh bien, des choses comptaient. Leur talent, certes, avant tout, mais la beauté, leurs relations, les faveurs qu'elles savaient accorder, un succès et surtout une bonne critique et le rôle des journaux était essentiel, pouvait mettre une actrice en orbite. Les débuts, comme on disait, les débuts, ça c'est très important, étaient essentiels. D'ailleurs, pour les débuts d'une actrice, les protecteurs ou les patrons savaient ameuter le tout Paris pour lui faire en quelque sorte un beau début. Après cela, les conditions de vie étaient dures et les contrats draconiens. Voici celui qu'une jeune comédienne souscrit à Paris en 1914. Elle s'engage, je cite, à « jouer, chanter, danser ou figurer à la première réquisition du directeur, en tout temps, à toute heure, en tout lieu, même en province ou à l'étranger, plusieurs fois et en divers théâtres, le même jour, en matinée et en soirée, tous les rôles qui lui seront attribués, sans distinction de genre ni d'emploi. » Vous voyez comme les exigences étaient fortes. En plus, elle doit apprendre 50 lignes par jour, se trouver au théâtre tous les jours sans exception, même si elle ne joue pas, une demi-heure avant le lever du rideau. Et tout cela pour 200 francs par mois, qui ne lui seront versés que si elle joue plus d'un acte dans la même représentation. 200 francs par mois, c'était pas grand-chose, hein, en 1914. Si elle tombe malade, elle n'est pas payée. Il n'y avait pas de sécurité sociale à l'époque. J'en passe. Ceci encore, elle est obligée d'habiter à Paris à une distance d'un quart d'heure au plus du théâtre. Parce qu'il faut qu'elle soit, comme on vient de le voir, disponible pour y être à tout temps, toute heure, tout jour, etc. C'est dire sa dépendance et la médiocrité de sa condition. Compensation, il y en a quand même, une forte sociabilité, voire une vie de famille intense. Les actrices ont des amants, mais aussi des liaisons de longue durée. Elles ont des enfants et sont presque toutes, nous dit George Sand, des mères d'une tendresse ineffable et d'un courage héroïque. Nulle part les liens du sang ne sont plus étroitement serrés que chez les actrices de théâtre. George Sand connaissait bien cela parce qu'elle était très mêlée au milieu des actrices de théâtre. Marie Dorval puis Pauline Viardot furent les grandes amies féminines de George Sand et évidemment elle connaissait très bien ce milieu-là et elle admirait beaucoup la manière dont les actrices recomposaient en quelque sorte une vie de famille et une vie de famille très stable en réalité avec des hommes stables, des enfants et beaucoup d'affection. Les tournées en province étaient harassante. Marie Dorval, actrice célèbre et donc amie de George Sand, évoque, je la cite, une vie d'auberge, toujours de grand chemin, de fatigue, de désordre, de caisse, de costume au travers de ma chambre, ces journées passées en répétition odieuse avec des acteurs stupides. Et Marie Dorval est une vedette. C'était pire pour les autres. Petits hôtels minables, théâtres malpropres, coulisses sans hygiène, dépourvus d'aération et de chauffage. De quoi attraper la crève ? Ce qui arrivait souvent, même pour les plus grandes. Rachel, la grande Rachel, est morte de tuberculose peu après son retour d'une tournée triomphale aux États-Unis en 1857. Elle est morte à Nice. La vie d'actrice est, selon Balzac, une vie de cheval de manège. Elle s'est, cette vie d'actrice, améliorée au cours du XIXe siècle. Colette dans La Vagabonde évoque ses tournées avec un certain plaisir. Elle a sa chambre d'hôtel à elle et elle s'y sent bien. Elle voit dans son métier un moyen d'indépendance. Mais la concurrence est très forte et le milieu très hiérarchisé. Il vaut mieux, par exemple, être cantatrice qu'actrice, tragédienne que comédienne, danseuse étoile, évidemment, plutôt que figurante de ballet. Il y a une distance considérable entre les stars de la scène, que sont Marie Dorval, Julia Bartet, Pauline Viardot, Rachel, Sarah et même Yvette Guilbert, et les chanteuses de Kafkons. Pourtant, ces stars ont contribué à modifier la pratique et le prestige du métier. Rachel avait une haute conception de son jeu. Elle a durablement marqué ses rôles et inspiré les artistes et les peintres. Il y a eu l'année dernière une très belle exposition au Musée d'histoire du judaïsme sur Rachel et l'on peut consulter le catalogue qui a été fait à ce propos. Sarah Bernhardt, surtout, a changé le statut de l'actrice. Son succès immense lui permit d'être exigeante, non seulement financièrement, mais aussi pour le quotidien. Sarah Bernhardt fit de sa loge, généralement minable, un lieu agréable, et elle veilla au confort du théâtre qu'elle créa Place du Châtelet, l'actuel théâtre de la ville, qui a succédé au théâtre Sarah Bernhardt. Elle refusait, Sarah Bernhardt, la galanterie et la domination masculine. Elle exigeait considération et respect. Elle se disait féministe, mais non suffragette, soucieuse surtout d'égalité salariale et du droit de recherche en paternité. Elle s'est beaucoup battue pour ça. Elle fut aussi une femme engagée politiquement pour Dreyfus et pour Zola dans l'affaire Dreyfus. Elle n'est sans doute pourtant pas une actrice moderne. Elle n'aimait pas les nordistes, comme elle disait, c'est-à-dire Ibsen, Strindberg, Tchekhov, qu'elle n'interpréta pas et qui était pourtant vraiment à l'avant-garde de la profession. Elle préférait Ruy Blas et Victor Hugo et surtout le théâtre d'Edmond Rostand. Elle fut la princesse lointaine et à 56 ans, elle incarna l'Aiglon, habillé par Poiret. Ce rôle, et qu'elle joua plus d'un millier de fois, fidèle à une vedette populaire, avec des dizaines de milliers de cartes postales qui la représentaient. Son physique impressionnait. Elle incarnait la femme nouvelle du moderne style avec ses longs cheveux. Son mode de vie fascinait. Ses tournées en Europe et aux États-Unis étaient prestigieuse avec une suite extravagante, 32 personnes et 42 mâles en 1880-81 aux États-Unis. J'aime passionnément cette vie d'aventure, disait-elle. Son train de vie faisait rêver. Appartements somptueux, chambres submergées de bibelots qu'elle ramenait de tous les coins du monde et les peaux de bêtes qu'elle affectionnait. Son courage aussi. « Ne vous arrêtez jamais, sinon c'est la mort », disait celle qui jamais ne voulut prendre de retraite. Et sa devise était « quand même ». Et elle ne cessa pas de jouer l'Aiglon, en dépit de son amputation d'une jambe. Elle joua donc l'Aiglon avec une jambe de bois.
Oh, quels sont ces échos ? Plus au loin, tout le ciel parle. Ah, je comprends le cri de cet homme qui meurt, plus pour ce van qui fait tous les râles par cœur, comme le premier vers d'une chanson connue. Et quand l'homme se tait, la plaine continue.
Elle avait aussi un côté moralisateur, et elle s'en vantait. Je suis la doyenne militante d'un art moralisateur. Je suis la prêtresse fidèle de la poésie, dit-elle en 1896 lors de la fête qui lui fut consacrée. Et son lyrisme patriotique atteignit des sommets durant la Grande Guerre. Elle se fit en quelque sorte le chantre de la nation. Lorsqu'elle mourut en 1923, on lui fit, le 23 mars, des obsèques solennelles au Père Lachaise. On avait même parlé du Panthéon. Des dizaines de milliers de personnes suivirent son cortège à travers Paris, les représentants de la République en tête. Et cela fait évidemment un étrange contraste avec l'enterrement quasi clandestin d'Adrienne Lecouvreur, 2 siècles plus tôt, le 20 mars 1730. Cette illustre comédienne, amie de Voltaire, à laquelle le clergé refusa la sépulture chrétienne, fut inhumée nuitamment sur les berges de la Seine, à la hauteur du quai d'Orsay, on ne sait pas exactement où. Et on voit la différence en un petit peu plus, en à peu près un siècle. Cela montre que les actrices, les comédiennes, sont beaucoup mieux considérées, même dans les milieux huppés. La princesse Mathilde n'hésite pas à les recevoir. Cécile Sorel, dans les années 1920, accueille chez elle le gratin de la République. Surtout, être comédienne devient un métier acceptable et respectable. Éléanor Marx, la fille de Karl Marx, se fit comédienne et joua la Nora de Maison de Poupée de Ibsen. Mais c'est elle, et on est à Londres. La poétesse Marceline Desbordes-Valmore, l'orientaliste Alexandra David-Nel, la journaliste et féministe Marguerite Durand, Colette, et je pourrais en citer bien d'autres, ont toutes été actrices dans les débuts de leur carrière. Elles étaient toutes, il est vrai, des femmes qui n'étaient ni conformistes, ni conformes au modèle académique de la féminité. Les unes et les autres ont contribué à faire de la situation d'actrice une profession à part entière, même si les familles manifestent encore quelques réticences. Aujourd'hui, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Jeanne Balibar. Pour cette dernière, il faut rappeler qu'elle a choisi le métier d'actrice après avoir fait l'école normale supérieure, sont d'une certaine manière leurs descendantes. On pourrait en dire autant des danseuses. À ce propos, je voudrais signaler l'existence d'un centre national de la danse qui vient d'ouvrir au 1 rue Victor Hugo à Pantin. Le bâtiment a été réhabilité par 2 femmes architectes qui ont pour cette œuvre reçu l'équerre d'argent en 2003. C'est la plus haute récompense en matière d'architecture. La directrice Claire Rousier a tenu à inaugurer le centre par une exposition sur la construction de la féminité dans la danse 15e-18e siècle. C'est très intéressant, c'était très intéressant, c'est terminé maintenant, et ça montrait l'évolution extraordinaire des rapports des sexes avec la danse. Autrefois, la danse était un métier d'homme, c'est devenu un métier de femme au cours du 18, 19 et 20e siècle, au point d'ailleurs que maintenant, ce sont parfois des hommes qui ont du mal à rentrer dans le métier, comme le montre le très beau film anglais Billy. Ainsi, on le voit, sur la scène du théâtre se jouent doublement les rapports des sexes.
Histoire des femmes par Michel Perrault. Réalisation Pierrette Perronneau.